VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, Bagassi Kouré, Jean-Roger Bion en votre compagnie. Bienvenue dans cette édition du mercredi 11 mai 2016. Au sommaire ce matin...
En République démocratique du Congo, Moïse Katumbi est attendu ce matin au tribunal de Lubumbashi, dans le sud-est du pays, pour être entendu. Il est accusé de recrutement de mercenaires.
Mort hier en détention des militants de l'opposition en Guinée.
Grève des magistrats au Niger, ils exigent de meilleures conditions de travail.
Quand vous faites le tour au niveau des juridictions, vous serez dessus. Parce que quand vous voyez, c'est des machines de temps de Gutenberg. C'est avec ça que les gens utilisent pour saisir. Je crois que c'est très dommage.
Peut-être les dernières heures de Dilma Rousseff à la tête du Brésil. Les sénateurs se préparent à l'écarter de la présidence aujourd'hui.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Allez, on commence par la RDC où Moïse Katumbi est attendu ce matin au tribunal de Lubumbashi dans le sud-est du pays. Son audition est prévue à 10h locale, soit 8h temps universel. L'opposant a déjà été entendu lundi dernier par le même tribunal pendant près de 7h. Hier, on a appris que l'avocat français Éric Dupont-Moretti a rejoint la défense de Katumbi. Katumbi accusé par le gouvernement de Kinshasa de recrutement de mercenaires étrangers.
Mort hier en détention d'un militant de l'opposition guinéenne, il avait été arrêté avec d'autres militants de l'opposition et inculpé en février dans le cadre d'une enquête sur la mort par balle d'un journaliste. Le point avec Nani Talani.
Mamadou Seydouba, un des volontaires assurant le maintien de l'ordre au sein de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, lors de manifestations, est décédé après avoir été évacué à l'hôpital avec trois co-détenus, selon les avocats. Aucune source n'est en mesure de se prononcer sur la nature de sa maladie. Un avocat de la famille, Maître Alseni Diallo, explique avoir été sollicité la semaine dernière pour des besoins d'une évacuation sanitaire de quatre des prévenus, dont M. Ba, écroué à la prison civile de Conakry parce qu'ils étaient tous malades. Il dit avoir déposé une demande de mise en liberté provisoire qui a été rejetée, mais avoir obtenu une ordonnance d'hospitalisation qu'il a fait exécuter vendredi dernier. Malheureusement, Mamadou Saïdou n'a pas survécu. Cet opposant et les 19 autres militants de l'UFDG ont été inculpés en février d'assassinat ou complicité d'assassinat, coups et blessures volontaires et non-assistance à personne en danger suite au heurte du 5 février entre la garde civile de l'UFDG et des partisans d'Amadou Ouriba, au cours desquels le journaliste Eladj Mohamed Diallo avait perdu la vie à la suite de blessures par balles.
Amnesty International demande aux autorités nigérianes de fermer un centre de détention réservé aux membres présumés du groupe islamiste Boko Haram après la mort en détention de 150 personnes, dont des enfants et des bébés. Le groupe de défense des droits humains a déjà dénoncé par le passé le traitement inhumain réservé aux détenus des casernes de Giwa, c'est à Maïdougouri dans le nord-est du Nigeria.
En Gambie, le principal parti d'opposition fait état de nouvelles arrestations parmi ses militants et sympathisants. Les précisions, Michel Joseph.
Un des responsables du Parti démocrate uni, UDP, Aladji Darbo, affirme que les personnes visées protestaient contre le maintien en détention d'une cinquantaine d'opposants arrêtés en rapport avec les manifestations des 14 et 16 avril dernier. Maintenus en prison depuis lors, ces derniers sont inculpés sous les chefs d'accusation de rassemblement illégal, d'incitation à la violence et de complot. Parmi les opposants en détention figure le leader de l'UDP, Ousseynou Darbo. Tous ont plaidé non coupables. Des témoins rapportent que des heurts avaient opposé lundi les forces de l'ordre et des manifestants pro-UDP près de la haute cour de Banjul et les arrestations avaient suivi quelques heures plus tard. Les manifestants brandissaient des banderoles où l'on pouvait lire notamment « Nous voulons la fin de la dictature » ou encore « Arrêtez les tueries ». Au pouvoir depuis son coup d'État de 1994, le président Yahya Jammeh dirige la Gambie d'une main de fer. Il est candidat à l'élection présidentielle prévue en décembre.
Le président bissau-guinéen José Mario Vaz, dont le pays traverse une crise politique depuis août 2015, envisage de dissoudre le gouvernement. Vaz a reçu dans la matinée de mardi des représentants des partis siégeant à l'Assemblée nationale et aussi le Conseil d'État, dont le premier ministre, des chefs de l'armée et des dignitaires religieux.
Les Comoriens sont de nouveau appelés à voter aujourd'hui dans le cadre du second tour de la présidentielle, des partiels qui font suite à des violences dans certains bureaux de vote et qui seront décisives pour départager l'Est Poutchis, Azali Assoumani et le candidat du pouvoir sortant, Mamadou. Au total, 6305 électeurs dans 13 bureaux de vote n'ont pas pu s'exprimer selon la Cour constitutionnelle qui a ordonné de réorganiser le scrutin dans ces localités dans juin.
Quatre jeunes Égyptiens ont été arrêtés et placés en détention provisoire pour s'être moqués du gouvernement dans une vidéo satirique diffusée sur les réseaux sociaux.
Un chocolat bio, équitable, 100% togolais, qui n'a pas besoin d'être conservé au frais et qui peut être vendu sur les étals des marchés du pays. C'est le pari audacieux lancé par la coopérative Choco Togo.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dilma Rousseff vit peut-être ses dernières heures à la tête du Brésil. Les sénateurs se préparent là-bas à l'écarter de la présidence aujourd'hui. Ils se réunissent à 9h, soit 12h temps universel, en séance plénière pour se prononcer sur l'ouverture formelle d'un procès en destitution de Mme Rousseff, première femme élue présidente du plus grand pays d'Amérique latine en 2010. L'issue du vote, qui devrait intervenir dans la soirée ou dans la nuit, ne fait pratiquement aucun doute. Une cinquantaine de sénateurs sur 81 se sont dit favorables à l'ouverture du procès de cette ex-guerrière torturée et emprisonnée sous la dictature militaire, soit sensiblement plus que la majorité simple requise de 41 votes.
Ici aux États-Unis, les élections primaires se poursuivent et cette victoire hier soir de Bernie Sanders, qui a battu Hillary Clinton à la primaire démocrate de Virginie-Occidentale dans l'est du pays, une victoire qui ne remet pas en cause le statut de favorite de l'investiture de l'ancienne secrétaire d'État de Barack Obama, Lionel Gahima.
Les chaînes de télévision ont déclaré Sanders vainqueur sur Clinton dans cet état où la quasi-totalité des votants étaient blancs, selon le sondage de sortie d'urne. Cet électorat blanc reste le point faible de Hillary Clinton, qui a bâti son succès électoral depuis le 1er février, principalement sur les minorités noires et hispaniques, ainsi que sur les femmes. Mais cette défaite ne remet pas en cause sa probable investiture. Seuls 29 délégués étaient en jeu mardi et ils seront repartis à la proportionnelle. Et Hillary Clinton mène largement dans la course aux délégués. Avec 2224 délégués avant cette primaire, elle était proche de la majorité absolue de 2383, tandis que Bernie Sanders n'en avait que 1448 selon l'estimation de CNN. Côté républicain, Donald Trump, candidat probable du Parti républicain à la présidentielle, a remporté les primaires de Virginie-Occidentale et du Nebraska, un résultat sans surprise puisque tous ses rivaux s'étaient retirés de la course la semaine dernière. Leurs noms apparaissent toutefois sur le bulletin de vote.
Lionel Gahima. Les partis en conflit au Yémen, engagés dans des pourparlers de paix au Koweït, ont décidé hier de procéder à un échange de prisonniers. C'est ce qu'ont indiqué des responsables des Nations Unies. Les précisions de John Lindon.
Il a été décidé de libérer 50% des prisonniers détenus dans les 20 prochains jours, a déclaré à l'AFP Man Al-Matari, conseiller de presse du chef de la diplomatie yéménite et de la délégation du gouvernement. Les deux parties doivent procéder ce mercredi à la finalisation du mécanisme de cet échange et de la date du début du processus de libération, selon M. Matari, qui a estimé à des milliers le nombre de personnes concernées par l'accord. Une source proche des rebelles parle quant à elle de centaines de prisonniers. Cet échange, s'il se matérialisait, marquerait la première mesure pour établir la confiance entre pouvoir et rebelles qui peinent jusqu'ici à progresser dans leur pourparlers entamé le 21 avril sous l'égide de l'ONU dans le but de mettre fin à la guerre qui ravage leur pays depuis plus d'un an. Des pressions internationales sont faites sur les belligérants pour un arrêt du conflit qui a fait plus de 6400 morts et 2,8 millions de déplacés depuis mars 2015.
Le Royaume-Uni, la France, les États-Unis et l'Ukraine ont bloqué mardi une demande de la Russie à l'ONU qui réclamait d'ajouter deux groupes rebelles syriens à la liste des organisations terroristes et de les écarter du processus de paix syrien. Selon des diplomates cités par l'AFP, les 15 membres du Conseil de sécurité doivent être unanimes pour placer des organisations sur cette liste et les soumettre à des sanctions. Ce rejet mardi par 4 d'entre eux a donc rendu la requête russe obsolète.
C'est en ce début d'après-midi que les députés italiens doivent voter pour adopter définitivement les unions gays, des unions sur lesquelles le gouvernement de centre-gauche de Matteo Renzi a engagé sa responsabilité.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco. Ce matin, c'est avec Nathalie Barge.
Ouverture du 26e Forum économique mondial pour l'Afrique à Kigali. Le rendez-vous a pour thème « Connecter les ressources de l'Afrique à travers la transformation numérique ». Une dizaine de chefs d'État ou de gouvernement africains sont attendus dans la capitale rwandaise. Les défis restent nombreux selon les spécialistes, pointant du doigt notamment le déficit en termes d'infrastructures dans le domaine de l'énergie. La Banque ouest-africaine de développement a accordé deux prêts de quelque 33 milliards de francs CFA à la compagnie malienne pour le développement des textiles, rapporte Financial Afrique. Ce soutien permettra de moderniser l'entreprise et de financer deux campagnes cotonnières. Le coton soutient directement ou indirectement les moyens de subsistance de 3,3 millions de Maliens, soit 21% de la population du pays, précise le communiqué de la banque justifiant le financement. La Société financière internationale a annoncé un investissement de 40 millions de dollars dans les capitaux propres de l'entreprise d'investissement immobilier Grosspoint Investec African Properties Limited. Les actifs immobiliers ciblés comprennent un espace de qualité de bureaux commerciaux, industriels et logistiques, principalement dans les économies africaines les plus dynamiques.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, c'est l'heure des sports. Bonjour Nicolas Pinault.
Bonjour Bagassi.
On commence par du football et la FIFA qui suspend la Fédération du Bénin.
Oui, le conseil de la FIFA réuni à Mexico a décidé de suspendre avec effet immédiat la Fédération béninoise de football à la suite de l'annulation du congrès électif de la FBF. Cette décision qui sera soumise pour confirmation au vote du congrès, ce sera vendredi, fait suite à la décision d'un tribunal local béninois qui a empêché la tenue des élections à la FBF, explique la FIFA. Le mois dernier, en effet, un tribunal avait décidé d'annuler le congrès électif de la FBF, initialement prévu fin avril. Le congrès de la FIFA, qui se tient à Mexico, devra également confirmer la suspension déjà en vigueur des fédérations d'Indonésie et du Koweït.
En Éthiopie, Haïlé, nouveau sélectionneur.
La Fédération éthiopienne de football a nommé Gerbe Medine Haïlé, sélectionneur par intérim, en remplacement de Johannes Salé, qui a trouvé un accord à l'amiable pour quitter son poste. L'actuel entraîneur du club de Defense Force devra tout faire pour qualifier les Walia, qui ont encore deux matchs à jouer contre le Lesotho le 5 juin à Maseru, puis contre les Seychelles le 2 septembre à Addis Abeba.
Autre départ, Alex McLeish a quitté son poste d'entraîneur du Zamalek deux mois seulement après son arrivée.
Oui, à peine plus de deux mois après son arrivée, l'Écossais a décidé de jeter l'éponge. Le torchon brûlé entre le manager et ses dirigeants après le limogeage de deux de ses adjoints au cours des dernières semaines. Arrivé au mois de février en remplacement de l'ancien Marseillais Mido, McLeish présentait un bilan honorable de 6 victoires en 10 matchs et une qualification pour la phase de poule de la Ligue des Champions. Il ne sera resté que 65 jours à son poste. C'est deux fois plus presque que son prédécesseur qui n'était resté que 37 jours.
Voilà, parlons maintenant de la NBA, le championnat de basketball nord-américain. Stephen Curry, superstar.
Oui, le joueur de Golden State a été désigné meilleur joueur MVP de la saison 2015-2016 pour la deuxième année consécutive. Un vote à l'unanimité des 131 votants. Un deuxième titre d'affilée, c'est une première dans l'histoire de la Ligue nord-américaine de basketball. Avec 1310 points, Stephen Curry devance largement au classement final. Leonard des San Antonio Spurs, 634 points. Et LeBron James des Cavaliers de Cleveland avec 631 points. Stephen Curry est le 11e joueur à remporter ce titre honorifique pour la deuxième année de rang, rejoignant Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar, Will Chamberlain ou encore Larry Bird. Et puis avec vous, Bagassi, les résultats de cette nuit.
Oui, hier soir, il y avait une seule rencontre au programme, le match numéro 5 de la conférence Ouest entre Oklahoma City et San Antonio. San Antonio qui a été battu de justesse 95 à 91. Oklahoma mène la série 3 à 2.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Bagasekura de retour avec vous. Place maintenant au dossier du jour. Les chefs traditionnels et imams du Cameroun sont réunis à Yaoundé pour examiner comment lutter efficacement contre le groupe terroriste Boko Haram. La réunion se tient dans un contexte de soupçons d'infiltration dans le pays des membres du groupe islamiste par des chefs traditionnels et des imams. Reportage de Moki Edwin Kinzeka à Yaoundé.
Oh Allah, nous te prions et te demandons d'éradiquer les sectes Boko Haram de notre pays.
200 leaders traditionnels et imams venus du nord Cameroun frontalier avec le Nigeria, réunis à Yaoundé, prient pour la paix au Cameroun. Parmi les clergés, Abdurrahman Ousmane, guide spirituel de Kerawa, ancien otage du groupe Boko Haram, explique qu'il y a des fidèles musulmans camerounais pris en otage par Boko Haram.
Dès qu'on vous amène, on vous hypnotise et on commence à vous donner au moins peut-être des drogues et tout ça là. On te prend en otage, c'est pour tout juste aller te manipuler, à accepter. C'est pour cela. Sinon, tu ne peux pas accepter toi-même étant peut-être, par exemple, comme étant quelque part un chef traditionnel. Tu te dis que tu vas accepter parce qu'on va te donner de l'argent et on va combattre. Et tu vois comment on tue tes gens, hein, ta famille. Comment tu peux accepter ça? Tu ne peux pas accepter.
Selon lui, de retour au Cameroun après leur libération, ces fidèles Camerounais recrutent des jeunes et leur proposent une somme de $500.
C'est les leaders de Boko Haram, les gens qui s'infiltrent là. Quand ils viennent seulement comme ça, ils disent, bon, ben, venez les enfants, qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez rien à faire? Ils disent, oui, on n'a rien à faire. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Venez, on va vous donner au moins de l'argent. Et comme ça, vous irez au moins, vous allez être des soldats. Et c'est quelque chose qui va vous donner beaucoup d'argent. Et finalement, vous voyez le résultat.
Le Conseil des dignitaires musulmans et des leaders traditionnels a invité ses chefs de communauté et les clergés pour examiner des moyens pour arrêter l'infiltration de Boko Haram au Cameroun. Moussa Assabé, l'un des membres de dit conseil, a invité les autorités traditionnelles et les leaders musulmans de travailler en collaboration avec les forces de l'ordre et les autorités publiques. Selon lui, la pauvreté et le chômage sont les principales causes de recrutement de ces jeunes par Boko Haram.
Ceci serait très sensible au discours de Boko Haram du fait de la pauvreté. Et ils ne sont pas les seuls. Il y a aussi même les populations locales du fait du manque, parce qu'ils n'ont rien et qu'ils se sentent un peu marginalisés au sein de la société. Ils pourraient être très sensibles au discours de Boko Haram. C'est-à-dire que si on lui propose, s'il a 10 enfants et qu'on lui propose 5 millions de francs pour qu'un seul de ses enfants place des bombes, je pense qu'il serait prêt à envoyer un de ses enfants aller mourir parce qu'il prendrait les 5 millions pour prendre soin des autres. Voilà comment est-ce que les populations locales pourraient réfléchir.
La semaine dernière, le chef de l'État camerounais Paul Biya, en visite au Nigeria, a discuté avec son homologue Muhammadu Buhari pour mettre fin à cette activité barbare. Depuis 4 mois, Boko Haram n'a pas réussi une attaque massive dans les deux pays. Une indication que leur force de frappe a diminué. Moki Edwin Kinzeka pour VOA Afrique, Yaoundé.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Voilà, nous faisons aussi un clin d'œil à nos amis de FM Liberté, c'est à N'Djamena, au Tchad. Le Forum économique mondial sur l'Afrique se tient du 11 au 13 mai à Kigali, c'est au Rwanda, sous le thème « La connexion des ressources de l'Afrique grâce à la transformation numérique ». De Kigali, la correspondance de Maurice Magourané.
Plus de 5 chefs d'État et pas moins de 1400 dirigeants du monde des affaires, accompagnés de leurs délégations, seront présents. Pour Claver Gatete, ministre de l'économie et de finances du Rwanda, c'est très important pour le Rwanda d'accueillir ce forum.
Cette réunion que nous allons accueillir est très importante pour notre pays, parce qu'il regroupe des intellectuels issus de milieux différents, qui vont se pencher notamment sur la santé économique du monde, mais ils vont mettre l'accent sur l'économie africaine. Pour voir où on en est et le problème auquel nous faisons face et émettre les recommandations. Aussi, ce forum regroupe un nombre important de gens issus du secteur privé des chefs d'État. Tout ce monde va se mettre ensemble et discuter pour trouver les solutions.
Les dirigeants vont échanger sur la diversification économique et pour une croissance inclusive. Mais les participants sont invités à tenir compte des changements technologiques rapides qui ont le potentiel de créer de nouvelles industries. Comme l'explique Elsie Kanza, directrice de la zone Afrique du World Economic Forum.
Nous avons besoin de la digitalisation pour pouvoir s'approcher de chacun. Il n'est pas possible de se développer avec les moyens traditionnels ou avec les techniques traditionnelles. Cela veut dire que nous devons utiliser la digitalisation comme outil pour aller plus loin.
Après avoir accueilli le championnat d'Afrique des Nations, CHAN 2016, et le Forum économique mondial sur l'Afrique qui va avoir lieu cette semaine, le Rwanda s'apprête à accueillir pas moins de 15 grandes conférences mondiales au courant de cette année 2016, dont un sommet de l'Union africaine en juillet 2016 à Kigali. Un pas de plus pour ce petit pays qui a l'ambition de devenir un centre de conférences internationales.
Voilà, c'était un reportage de Maurice Magorané à Kigali.
Dans Washington Forum cette semaine, la République démocratique du Congo est le bras de fer entre la société civile qui veut empêcher Joseph Kabila de briguer un troisième mandat et le pouvoir. Climat tendu aussi avec l'opposition et la récente audition devant la justice de Moïse Katumbi. À quand la tenue d'élections? Quelles seraient les conséquences d'un report? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et retrouvez-moi dans Washington Forum. C'est ce jeudi à 19h temps universel.
Grève des magistrats au Niger, ils exigent des autorités de meilleures conditions de travail. Le mouvement largement suivi hier à sa deuxième journée a du coup créé la paralysie du secteur de la justice dans le pays. Précision de notre correspondant à Niamey, Abdoul Razak Idrissa.
Le principal motif de la grève, c'est l'amélioration des conditions de vie et de travail des magistrats.
Les juges nigériens travaillent dans des conditions très difficiles parce que c'est, je dirais même, la précarité. Voyez-vous, parce que quand vous faites le tour au niveau des juridictions, vous serez dessus. Parce que quand vous voyez, c'est des machines de temps de Gutenberg. C'est avec ça que les gens utilisent pour saisir. Je crois que c'est très dommage.
À cela s'ajoute l'exigence de la réhabilitation de deux magistrats suspendus par le ministre de la Justice, poursuit Ayuba Hassan, le secrétaire général du syndicat autonome des magistrats du Niger.
Le ministre est tenu de rapporter cette décision de suspension-là pour mettre les collègues dans les droits. On leur reproche des faits dont normalement c'est la procédure judiciaire qui devrait quand même essayer de leur dire qu'est-ce qu'on leur reproche. Maintenant, et ça a passé qu'on leur reproche. Ils ont été suspendus jusqu'à l'expiration du délai de 5 mois. Rien n'a été fait. Donc on dit non, ça c'est de l'insécurité juridique. On ne peut pas rester dans ce cas-là. Si un ministre peut se lever et suspendre des magistrats et qu'il n'y a pas de poursuite disciplinaire contre eux, je crois que c'est très grave. Donc on ne peut pas tolérer. Donc on a dit stop, il faut arrêter ça. Cette grève est suivie à 100%. On a fait l'évaluation tout à l'heure au niveau de toutes les juridictions, à commencer par Niamey, donc tribunal de Niamey, cour d'appel et les hauts juges, c'est clair, même des assises qui ont été prévues à Tillabéri n'ont pas eu lieu. Voilà, donc vraiment la grève a été suivie parce que les magistrats ont compris, ils n'ont même pas le choix, parce que c'est de leur carrière, ça dépend.
Le syndicat avait pourtant alerté le gouvernement sur son intention d'observer ce mouvement de grève qui paralyse le secteur depuis hier. Au deuxième jour, il ne s'est pas encore manifesté et le syndicat compte poursuivre le mouvement les semaines à venir. Abdoulaye Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
VOA Afrique au Niger à Niamey, 24 heures sur 24 sur 102.5 FM.
Et pour terminer, direction le Burkina Faso où un ingénieur a monté une start-up qui fabrique un savon repoussant les moustiques, vecteur du paludisme. Un projet mené à bien depuis 2013 dont la commercialisation devrait se faire d'ici 2017. Mélisse Hegel a joint le fondateur de la start-up Faso Soap, Gérard Niondiko.
Ce n'est pas un savon qui soigne. Ça permet de prévenir, d'éviter de contacter le paris en éloignant les moustiques. On a vu qu'en Afrique, en général, le savon, c'est l'une des seuls produits que tu peux retrouver dans plus de 95% des ménages. Et même les ménages les plus pauvres, ils utilisent le savon. Alors que le paludisme est un mal du siècle. En Afrique subsaharienne, chaque fois, ça tue des gens. Moi-même, j'ai été victime du paludisme. J'ai des amis qui ont décédé à cause du paludisme. C'est un problème réel et on s'était dit, si on on arrive à intégrer la prévention dans un produit qui est accessible, qui ne demande pas de changement d'habitude, ça pourra mieux combattre ce fléau. C'est pourquoi nous, on a pensé effectivement à faire un savon. Une fois que la personne se lave avec le savon, ça permet de protéger contre les piqûres de moustiques. Et le problème aussi ici, chez nous, c'est que les gens, ils ont difficulté de changement d'habitude. On constate qu'il y a des gens qui ont même des moustiquaires à la maison, mais qui ne les utilisent pas parce que ça ne rentre pas dans les habitudes. Mais le savon, ça ne demande pas de changement d'habitude. Ça peut mieux s'intégrer dans le quotidien de la population.
Quelles sont les prochaines étapes pour ce savon? Quand est-ce que va commencer la commercialisation et à quel prix allez-vous vendre ces savons?
Depuis 2013, on a travaillé sur le développement des prototypes de ce savon, mais il fallait faire tout un travail de recherche en amont pour la validation scientifique, réaliser des tests d'efficacité même dans des laboratoires spécialisés. On compte finaliser la recherche et développement de ce savon d'ici fin de l'année pour pouvoir commencer à lancer la production, la diffusion en 2017.
Sans aller trop loin dans les explications, comment ça marche chimiquement parlant?
Le savon contient des huiles essentielles qui sont répulsives contre les moustiques et la personne se lave avec le savon et ça va laisser toute une firme sur la peau et l'odeur va être diffusée sur le long terme. Notre objectif, c'est d'atteindre 6 heures de protection, étant donné que les moustiques commencent à transmettre le palud le soir et on veut protéger au moins les gens avant qu'ils aillent dormir d'aller aux moustiquaires. C'est pourquoi notre objectif, on veut atteindre au minimum 6 heures de protection.
Votre objectif à long terme, c'est de commercialiser ce produit dans un petit peu tous les pays d'Afrique.
Nous, on projette de sauver d'ici 2018 5000 vies du paludisme en distribuant notre savon dans les 6 pays les plus touchés par le paludisme. On va travailler avec tous les partenaires qui soutiennent cette cause pour pouvoir toucher toute cette population vulnérable.
Voilà, c'était Gérard Niyondiko, il est fondateur de la start-up Faso Soap. Il a été joint à Ouagadougou au Burkina Faso.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au programme International Music, Comedy et Country Music. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écoutez de la bonne musique et partagez vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001 202 619 3140. Vos SMS et WhatsApp au 001 703 350 37 31. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24h sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse, voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Voilà, c'est tout donc pour cette édition matinale. Ça a été présenté par moi-même, Bagassi Koura et Jean-Roger Bion. La production est assurée par Lionel Gaïma. Ainsi va le monde aujourd'hui. Très bonne journée à tous. On maintient la conversation et c'est sur Facebook. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24 heures sur 24. Passez une excellente journée à l'écoute de VOA Afrique.